Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 30 novembre. Avec vous, Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse. Au cours de cette émission, le journal, les sports, le journal de la semaine en France et la deuxième partie de notre entretien avec la directrice de l'école française de Melbourne. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 30 novembre, les frontières internationales de l'Australie restent telles quelles jusqu'à la mi-décembre à cause du variant Omicron. La disparition d'un acteur autochtone emblématique dont on se souviendra comme un pionnier et une force du cinéma australien. Et puis l'attaquante des Matildas et de Chelsea, Sam Kerr, s'est classée troisième au prestigieux Ballon d'Or féminin. Le gouvernement fédéral a reporté la réouverture de la frontière internationale aux travailleurs qualifiés, aux étudiants internationaux et autres titulaires de visa afin d'avoir plus d'informations sur le variant Omicron. La réouverture des frontières devait avoir lieu pour ces groupes de voyageurs demain, mercredi 1er décembre, mais le médecin-chef Paul Kelly a conseillé d'attendre au moins jusqu'au 15 décembre. Les autorités cherchent toujours à savoir si le variant Omicron affecte l'efficacité du vaccin contre le COVID-19. Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré qu'Omicron est gérable.
This may turn out to be a milder variant, even if it were more transmissible, has come very much from the field evidence on the ground in South Africa. So we want to acknowledge them. We recognise it's a difficult time for them, but everybody's working together, and Australia's dealt with challenges. And we're ready for this, we're able to deal with this, and we want to give Australians that confidence.
Le leader travailliste fédéral, Anthony Albanese, a déclaré sur ABC qu'il fallait une réponse mesurée.
We've seen in the past, for example, in Sydney, when Scott Morrison encouraged Gladys Berejiklian to not close down activity, we saw that spread throughout the entire country, and lockdowns at great cost have to be imposed as a result of that policy failure. This has once again shown that we should have had in place purpose-built quarantine by now.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a remercié l'Afrique du Sud pour sa transparence et sa rapidité dans le partage des données sur Omicron, affirmant qu'il s'agit d'un modèle de coopération internationale qui contribue à sauver des vies.
As we speak, the global community is faced with the threat of a new, highly transmissible variant of COVID-19, Omicron. This is not the first variant, and this time the world showed it is learning. South Africa's analytic work and transparency in sharing its results was indispensable in allowing a swift global response.
Plusieurs pays ont imposé des restrictions de voyage en provenance et vers l'Afrique du Sud. Magali Lagrange pour Radio France Internationale revient sur les réactions en Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud juge triste et regrettable les restrictions de voyage imposées, notamment par des pays africains, depuis la découverte du nouveau variant, d'autant plus que certains des pays qui agissent ainsi connaissent les difficultés pour le continent lorsque les Européens prennent une telle décision, ajoute le porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères. Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, accuse pour sa part les pays occidentaux d'afrophobie quand le Botswana met en garde contre la géopolitisation du virus. Depuis que le nouveau variant a été détecté par des scientifiques sud-africains jeudi, plusieurs pays, les États-Unis, les Philippines notamment, ont décidé d'interdire l'entrée sur leur sol de voyageurs en provenance d'Afrique australe. Plusieurs pays du continent, Rwanda, Île Maurice, Angola par exemple, ont aussi adopté des mesures de restriction. Le secrétaire général des Nations Unies se dit très préoccupé par l'isolement de l'Afrique australe. Le peuple africain ne devrait pas être pénalisé pour avoir identifié et partagé des informations scientifiques et sanitaires essentielles avec le monde, explique Antonio Guterres.
Le Victoria a enregistré 918 nouveaux cas de Covid-19 et 6 décès ce mardi, tandis que la Nouvelle-Galles du Sud compte 179 nouveaux cas et 3 décès. Et puis, la date limite de vaccination contre le Covid-19 arrive pour des dizaines de milliers de travailleurs à travers l'Australie occidentale. À partir de demain, mercredi, les personnes qui travaillent dans des industries jugées à haut risque ou critiques pour la sécurité de la communauté devront avoir reçu au moins leur première dose. Le chef du Victoria, Daniel Andrews, a de nouveau défendu la législation sur les pandémies qui donne au chef de l'État et au ministre de la Santé le pouvoir de déclarer une pandémie et d'appliquer des restrictions. Il dit qu'avec la découverte du variant Omicron, c'est une preuve d'une législation pertinente.
They are the rules that we need. The last couple of days have shown us that this is not over. And if we want to protect those who are vulnerable in our community, so those who aren't vaccinated, those who can't get vaccinated, those who are in aged care, those who have underlying health conditions, this is not over.
L'Organisation mondiale de la santé affirme que le variant Omicron est susceptible de se propager davantage et pourrait entraîner des conséquences graves et un risque élevé à l'échelle mondiale. Le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, déclare que le nouveau variant met en évidence la nécessité d'un accord international pour faire face aux futures pandémies.
We don't yet know whether Omicron is associated with more transmission, more severe disease, more risk of reinfections, or more risk of evading vaccines. Scientists at WHO and around the world are working urgently to answer these questions. Omicron's very emergence is another reminder that although many of us might think we're done with COVID-19, it's not done with us.
Et maintenant, les précisions et le reportage de Jérémy Lanche pour RFI.
C'est la deuxième fois de son histoire que l'OMS se réunit en session spéciale. Celle-ci arrive en plein milieu d'une nouvelle vague de contamination qui s'abat sur l'Europe. À lui seul, le variant Omicron est un plaidoyer pour la création d'un traité sur les pandémies, estime Tedros Ghebreyesus. Le patron de l'OMS en veut pour preuve la multiplication des fermetures de frontières avec l'Afrique australe, prises de façon unilatérale et aux dépens de toute une région.
On doit remercier l'Afrique du Sud et le Botswana d'avoir séquencé et identifié le variant, pas les pénaliser. Et Omicron démontre pourquoi nous avons besoin d'un traité sur les pandémies. Parce que le système actuel n'encourage pas les États à alerter les autres des menaces qui vont inévitablement arriver chez eux.
Un traité n'empêchera pas les égoïsmes nationaux, mais pour ses partisans, il aurait le mérite de mieux coordonner la riposte et le partage d'informations en cas d'émergence d'un nouvel agent infectieux, avec l'envoi automatique d'experts sur le terrain. On en est pour le moment très loin, car le consensus qui semble se dégager à Genève ces dernières heures ne dit rien du contenu du futur traité. Les négociations pourraient durer des mois, voire des années, avec une possible entrée en vigueur pas avant 2024.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé la Russie à réduire les tensions après avoir fait part de ses inquiétudes concernant un renforcement militaire des troupes russes à la frontière avec l'Ukraine. Il déclare que toute future agression russe contre l'Ukraine coûterait cher et aurait de graves conséquences pour la Russie.
This is the second time this year that Russia has amassed large and unusual concentration of forces in this region. We see heavy weapons, artillery, armored units, drones, and electronic warfare systems, and tens of thousands of combat-ready troops. This military buildup is unprovoked and unexplained. It raises tensions and risk miscalculation.
Les pourparlers sur l'accord nucléaire de 2015 entre l'Iran et les puissances mondiales ont repris à Vienne après une interruption de plus de 5 mois. Le diplomate de l'Union européenne, Enrique Mor, qui a présidé les pourparlers, a déclaré qu'il y avait de l'optimisme quant au progrès sur la question.
I feel extremely positive about what I have seen today in the Joint Commission. There is clearly a will to engage. There is clearly a will on all the delegations to listen to the Iranian positions brought by the new team. And there is clearly a will of the Iranian delegation to engage in serious work and bring JCPOA back to life. So I feel positive that we can be doing important things for the next weeks to come.
Le président américain Joe Biden a indiqué qu'il souhaitait rejoindre les pourparlers après que l'administration Trump s'est retirée de l'accord il y a 3 ans. Le premier ministre israélien Naftali Bennett a quant à lui envoyé un message à Vienne exhortant les puissances mondiales à ne pas céder, je cite, au chantage nucléaire de l'Iran. Monsieur Bennett déclare que l'Iran espère mettre fin aux sanctions en échange de, je cite, presque rien et garder son programme nucléaire intact.
Iran deserves no rewards, no bargain deals and no sanctions relief in return for their brutality. I call upon our allies around the world, do not give in to Iran's nuclear blackmail.
Les responsables israéliens disent que Téhéran est plus proche que jamais du développement d'armes nucléaires, malgré l'insistance des responsables iraniens que son programme nucléaire est uniquement à des fins pacifiques. Israël est largement considéré comme le seul pays doté de l'arme nucléaire au Moyen-Orient, bien qu'il maintienne une politique d'ambiguïté sur son propre programme. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a accusé les autorités lituaniennes de jeter les corps de migrants à la frontière entre les deux pays. La déclaration a été rejetée par la Lituanie au milieu des tensions frontalières entre la Biélorussie et ses voisins de l'Union européenne.
As part of this migrant crisis, the scoundrels have stooped to killing people. Last night, they dumped a dead body on our border, and today we found another dead body. It had the same signature. They put a dead body, or probably a person who is still alive, in a sleeping bag and toss it on the border. What an abomination.
Le service national lituanien des gardes frontières a déclaré que les autorités biélorusses avaient tenté à plusieurs reprises de mettre en scène et de diriger des passages à tabac, la paralysie ou même la mort de migrants, tout en accusant la Lituanie de traitement inhumain. En Australie, à nouveau, un nouveau rapport a documenté l'expérience de 734 titulaires de visas temporaires en Australie pendant la pandémie, révélant que 65% des personnes interrogées avaient subi un sous-paiement de leur salaire. Le rapport du Migrant Workers Centre a révélé qu'une personne sur 4 avait également été victime d'une autre forme d'exploitation au travail. Il a fallu 5 ans aux travailleurs interrogés pour obtenir la résidence permanente en Australie. Le directeur général du Migrant Workers Centre, Matt Kunkel, a déclaré que le rapport avait établi un lien clair entre l'exploitation sur le lieu de travail et le statut de visa temporaire.
What we found that workers who enter the country without a genuine pathway to permanence are more than 3 times more likely to be underpaid or face other forms of workplace exploitation. And improving settlement pathways is really critical to improving the lives and outcomes for all workers here.
L'Australie pleure la mort de l'acteur David Daltingu. Il avait 68 ans et avait reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2017. Sa mort a été annoncée dans un communiqué du premier de l'Australie du Sud, Stephen Marshall, qui lui a rendu hommage, affirmant qu'il était un artiste emblématique d'une génération qui a façonné l'histoire du cinéma australien et de la représentation aborigène à l'écran. Acteur, danseur, chanteur et peintre, il était également l'un des plus grands artistes que l'Australie n'ait jamais vu. L'acteur autochtone est aussi un lauréat du Festival de Cannes et surtout connu pour ses rôles au cinéma, notamment dans Walkabout, Rabbit Proof Fence, The Tracker et Crocodile Dundee. On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 24 degrés. Adélaïde, 33 degrés. Melbourne, 30. Hobart, 26. Canberra, 25. Sydney, 23. Brisbane, 25. Cairns, 33. Darwin, 35. Et à Alice Springs, un maximal de 36 degrés. Les frontières internationales de l'Australie restent telles quelles jusqu'à la mi-décembre à cause du variant Omicron. L'attaquante des Matildas et de Chelsea, Sam Kerr, s'est classée troisième au prestigieux Ballon d'Or féminin. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christophe avec le Journal des Sports. Voilà, fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports, et on débute ce journal avec le Ballon d'Or qui a été remis il y a juste quelques heures. Ballon d'Or presque sans surprise, je dis presque sans surprise, remis à l'Argentin Lionel Messi. Marie-Amélie Motte pour RFI.
Septième Ballon d'Or pour l'Argentin, c'est évidemment un record. Il vient tout d'abord récompenser un titre, celui remporté en Copa América début juillet. À 34 ans, Lionel Messi a terminé meilleur joueur, meilleur buteur et meilleur passeur de la compétition. C'était le premier titre de sa carrière avec l'Argentine. En 2021, Messi totalise 41 buts et 17 passes décisives. 2021 qui a aussi marqué la fin de son histoire avec le FC Barcelone. Et malgré les années, malgré un début de saison délicat avec le PSG, la Pulga a règne toujours sur le football mondial. Et sur le podium du Ballon d'Or, Messi devance le Polonais Robert Lewandowski et l'Italien Jorginho. L'Égyptien Mohamed Salah se classe lui à la 7e place. Et à noter également le trophée Yashin qui récompense le meilleur gardien. Il a été remporté cette année par Gianluigi Donnarumma, le gardien du PSG, vainqueur de l'Euro avec l'Italie. Le Sénégalais Edouard Mendy termine 2e. Et côté femme, le Ballon d'Or a été attribué à Alexia Putellas, internationale espagnole et capitaine du FC Barcelone.
Voilà donc pour le Ballon d'Or donc de cette année 2021. Allez, sur le terrain, on va faire un tour d'Europe des terrains, direction la France. Tout d'abord, retour sur la journée de Ligue 1 qui vient de se terminer avec Thomas de Saint-Léger.
Cambrier, les Olympiens ont battu 3-1-0. Ils sont quatrième à des années-lumière, 14 points exactement du PSG. Toujours solide leader après une victoire 3-1 à Saint-Étienne. La satisfaction d'André Di Maria, buteur sur une passe de Léo Messi.
Je crois que quand nous étions à 11 contre 11, nous nous sommes procuré beaucoup d'occasions, mais nous n'avons pas su les concrétiser. Le ballon ne voulait pas rentrer. Nous avons continué à jouer de la même manière malgré tout, et nous avons réalisé un grand match ici. J'ai marqué, Marquinhos aussi, deux fois. Jouer, garder le ballon, c'est le plus important. Avoir la possession de façon à faire courir l'équipe adverse, c'est notre jeu. Ainsi, nous créons des espaces et cela nous donne des opportunités. Nous avons donc mis de la qualité et gagner 3-1, c'est important.
Seule fausse note, la blessure a priori sérieuse de Neymar touché à la cheville. On attend des nouvelles au classement. Rennes vainqueur 2-0 à Lorient et le nouveau dauphin à 12 longueurs du PSG.
Thomas de Saint-Léger d'ailleurs, on l'a vu, premier match de Sergio Ramos, finalement arrivé au PSG, Olivier Pron.
4 mois plus tard, voilà l'autre recrue phare de l'été parisien avec Messi, enfin sur le pré. Il était temps car les observateurs et autres fans du PSG commençaient à s'inquiéter et se demandaient si le club n'avait pas été berné. À 35 ans, le mythique défenseur aux 4 Ligues des Champions gagné avec le Real Madrid a donc enfin été aligné d'entrée face au vert. Son 8e match seulement de l'année, la faute à des problèmes récurrents au mollet. Ramos titularisé mais pas encore tout à fait dans le rythme de ce club dans lequel il ne cesse de répéter qu'il se sent bien. pas dans le rythme comme les attaquants parisiens qui, même une mi-temps à 11 contre 10, ont longtemps buté sur Green, l'excellent gardien stéphanois. Paris cueilli à froid par le gabonais Bouanga, revenu à hauteur sur une tête de Marquinhos juste avant la pause. Paris enneigé, mais Paris libéré enfin à la 79e minute grâce à Di Maria, admirablement servi par Lionel Messi, triple passeur ce dimanche. Marquinhos signe un doublé en toute fin de match, 3-1 score final. Sergio Ramos a apprécié, mais il sait que pour pouvoir lui aussi être un défenseur buteur, il faudra encore travailler.
Olivier Pron, allez, on continue sur le football et en Angleterre, le championnat, eh bien, n'en finit pas de surprendre. Et quelle belle victoire, eh bien, de Liverpool ce week-end, Bruno Constance.
Oui, hier à Anfield, c'était pas une averse de flocons, mais c'était une tornade rouge qui a balayé la formation de Southampton. Liverpool a clairement retrouvé l'intensité qui faisait sa force ces dernières saisons. Un Van Dijk impérial en défense, Thiago Alcantara qui est en train de monter en puissance dans l'entrejeu et un nouveau buteur, des latéraux qui montent toujours autant et puis ce trio offensif magique, Mané, Salah et surtout Diogo Jota, l'attaquant portugais, auteur d'un doublé et qui profite des pépins physiques de Firmino pour s'imposer à la pointe de l'attaque des Reds. Victoire 4-0, c'est le tarif maison à Anfield comme face à Arsenal. Une attaque de feu qui totalise 39 buts en 13 journées. Faites le calcul, il est facile, ça fait une moyenne de 3 buts par match. Cette saison en première ligue pour les Reds, absolument exceptionnelle. Et la confirmation que le titre se jouera bien entre Chelsea, City et Liverpool cette saison.
Voilà donc pour cette performance de Liverpool et une petite déception, bien le match nul entre Manchester United et Chelsea. On écoute d'ailleurs le coach de Manchester United, Michael Carrick.
Je suis assez frustré et déçu du résultat de ce match. Nous sommes venus ici pour gagner. Après l'ouverture du score, on pensait pouvoir l'emporter. Et puis nous avons été pénalisés par ce pénalty généreux. Chelsea a logiquement égalisé. Vous savez, ça a été une semaine difficile. Je suis extrêmement fier des joueurs. Je suis réellement impressionné par les efforts fournis et la manière dont ils ont joué cette rencontre.
Voilà donc pour le football anglais. Petit détour par l'Italie et cette fois-ci pas forcément sur les terrains. Il y a quelques malversations, en tout cas supposées, dans le championnat italien, comme nous l'explique Charlotte Cosset. Et ça implique un club italien très connu, la Juventus de Turin.
L'enquête de la justice italienne porte sur les mouvements des joueurs de ces trois dernières saisons, ainsi que sur la manière dont les résultats financiers annuels ont été présentés. Le club est également soupçonné d'avoir produit des factures pour des transactions inexistantes. C'est ce que détaille un communiqué du bureau du procureur de Turin. Le cas de Cristiano Ronaldo serait notamment dans le viseur des enquêteurs, selon l'agence de presse nationale italienne. Le joueur portugais arrivé à la Juventus à l'été 2018 pour un transfert d'un montant de 100 millions d'euros. En plus de Ronaldo, 6 dirigeants du club seraient concernés, certains cas confirmés dans un communiqué de la Juventus de Turin. La Fédération italienne de football mène, elle aussi, son enquête sur une série de transferts douteux. La plupart impliqueraient la Juventus. Le club aurait gonflé artificiellement la valeur de ses joueurs pour des raisons comptables ou procédé à des échanges de joueurs pour équilibrer les comptes.
Voilà donc pour le football en Italie. Ça conclut également l'autre section football pour ce journal des sports. Un dernier mot de tennis pour finir ce journal donc aujourd'hui. Craig Tiley, le directeur de l'Australian Open, a parlé il y a quelques heures sur eh bien, la tenue ou non de l'Australian Open et la potentielle problématique du variant Omicron. Craig Tiley.
At this point, the plans are going ahead as they are. We're looking forward to 100% capacity crowds in January. All the players, the first charter flight arrives in Australia on the 28th of December. And we're bringing in over 20 charter flights from different countries around the world. But every athlete that gets on has to have a negative PCR test, gets tested again when they arrive. But there's still a lot to play out with this. There's a lot of unanswered questions, which we'll get to hopefully here pretty soon.
Voilà donc Craig Tiley, le directeur du tournoi de tennis de Melbourne, l'Open d'Australie, qui devrait avoir lieu à partir de la mi-janvier. Voilà, c'est tout pour ce journal des sports pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans le reste du programme. Vous écoutez Le Français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Et pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour Émile.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors à la une, le ministre des Outre-mer qui est en déplacement dans les Antilles.
Sébastien Lecornu, oui, est arrivé aux Antilles dimanche. Il doit rentrer à Paris ce mercredi. Un déplacement sous haute tension en Guadeloupe et en Martinique pour répondre à la situation explosive dans ces deux territoires français d'outre-mer. La tension est quelque peu retombée. Tout de même ce week-end, hein, mais depuis 10 jours, la Guadeloupe d'abord, puis sa voisine, la Martinique, ont été en proie à des violences, des soulèvements de la population. Des barrages ont été érigés sur les principaux axes routiers, des magasins, des commerces pillés, des affrontements avec les forces de l'ordre. Tout est parti de la décision du gouvernement français à Paris d'imposer, comme c'est le cas en métropole, la vaccination obligatoire contre le Covid pour les soignants et pour les pompiers, sous peine de quoi les personnes concernées ne toucheraient plus leur salaire et s'exposeraient à terme à la perte de leur emploi. C'est la goutte d'eau qui a servi de catalyseur à toutes les frustrations des Guadeloupéens et Martiniquais. En 10 jours, la protestation, elle a largement dépassé le cadre de cette question vaccinale. Les revendications, elles sont multiples. Les manifestants, ils dénoncent l'abandon de l'État sur fond de chômage, la vie chère, les disparités sociales. Le gouvernement a accepté de repousser au 31 décembre finalement l'obligation vaccinale, mais arrivera le jour où elle sera là, imposée. Cela ne change rien sur le fond. Et c'est dans ce contexte que Sébastien Lecornu a traversé l'Atlantique pour venir discuter sur place avec les différents acteurs de cette crise. À son arrivée à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, le ministre dimanche a rappelé, je cite, que les lois de la République ont vocation à s'appliquer, sous-entendu, même à 8000 kilomètres de Paris, car oui, la Guadeloupe, la Martinique sont des territoires français. Je ne suis pas venu ici pour incarner un État faible, a ajouté Sébastien Lecornu, mais je suis venu aussi pour incarner un État qui dialogue.
Alors Sébastien Lecornu qui a entrouvert la porte à l'autonomie, voire l'indépendance des Antilles.
Oui, ce sont des propos qu'il a tenus avant de quitter Paris sur un plateau de télévision vendredi. Il s'est dit prêt, en effet, au nom du gouvernement, il est ministre, ministre des Outre-mer, prêt à aborder la question de plus d'autonomie pour la Guadeloupe et la Martinique, ces deux îles distantes de 120 km, qui ont le statut de département et de région française, de Pointe-à-Pitre à Fort-de-France, ces archipels qui se trouvent dans les Caraïbes, avec pas très loin au sud-est, mais là ancré sur le continent sud-américain, un autre territoire français, la Guyane. À propos donc d'une plus grande autonomie de la Guadeloupe, de la Martinique, voilà ce qu'a dit Sébastien Lecornu. Certains élus ont posé la question en creux de l'autonomie. D'après eux, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer elle-même. Ils souhaitent plus de liberté de décision par les décideurs locaux. Sébastien Lecornu qui a poursuivi, il n'y a pas de mauvais débat du moment qu'ils servent à résoudre les vrais problèmes du quotidien des Guadeloupéens. Alors, cette déclaration, on va le voir, elle a suscité nombre de réactions dans la classe politique dans l'Hexagone. Sébastien Lecornu, très vite, a non pas rectifié le tir, mais il a apporté des précisions, des limites à ce qu'il a pu dire dans un premier temps. Dans le journal du dimanche, il explique « l'autonomie, ce n'est certainement pas l'indépendance », que l'on comprenne bien. Il a pris l'exemple d'autres collectivités d'outre-mer. Le modèle le plus poussé en matière d'autonomie, a expliqué le ministre, étant la Polynésie. On a aussi le cas de la Nouvelle-Calédonie, petite parenthèse, avec le processus des 3 référendums où la population calédonienne est amenée à se prononcer pour ou contre l'indépendance. Lors des 2 premiers référendums, le non à l'indépendance l'a emporté. Le 3e décisif doit normalement se tenir en Nouvelle-Calédonie le 12 décembre.
Alors, quelle a été la réaction de la classe politique à ces propos de Sébastien Lecornu ?
Bien, les réactions, elles ont été immédiates, notamment à droite de l'échiquier politique. Les plus réactifs ont été les candidats du parti Les Républicains, les candidats à la primaire du 4 décembre qui doit désigner le ou la candidate du parti pour l'élection présidentielle du mois d'avril. Alors Xavier Bertrand, par exemple, il dénonce ce qui s'apparenterait à un désengagement de la France aux Antilles, ce moins d'État, a-t-il dit. Michel Barnier, ancien commissaire européen, précise lui que ce qui est en jeu, c'est l'unité de la nation. Plus direct, plus virulent, Éric Ciotti, pour qui je cite, avec Macron, la République cède et recule face à la violence. Alors, précisons que la semaine dernière, le gouvernement français, pour répondre à cette violence, aux émeutes, à la situation, il a décidé d'envoyer 250 gendarmes supplémentaires, des forces spéciales du GIGN et du RAID, pour répondre à ce chaos urbain. Il n'y a pas eu de morts ces 10 derniers jours, mais des blessés avec des balles réelles qui ont été tirées par les émeutiers sur les forces de l'ordre, des voitures des forces de l'ordre qui ont été criblées de balles, avec des policiers qui, eux, ont effectué des tirs de sommation. Alors, au chapitre des réactions, pour continuer, celle de Marine Le Pen, pour l'extrême droite, Rassemblement National, elle estime que le gouvernement, je cite, est prêt à lâcher la Guadeloupe pour essayer d'acheter les indépendantistes radicaux. Yves Jégot, homme politique de droite, également secrétaire d'État à l'Outre-mer, ancien secrétaire d'État à l'Outre-mer, il estime, lui, que le gouvernement, en parlant d'autonomie, même si cela fait partie des revendications de certains élus des deux îles, eh bien, que le gouvernement n'apporte pas la bonne réponse à la crise actuelle. Parler du statut de la Guadeloupe et de la Martinique, alors que l'urgence, le malaise est avant tout social, économique, cela crée, dixit Yves Jégot, cela crée la confusion et ne règle pas les problèmes.
L'autre actualité, c'est la situation sanitaire. La France qui fait face à une cinquième vague du Covid-19.
Et oui, la pandémie Covid-19, toujours là, une impression de déjà-vu, alors que l'hiver approche, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est remonté à des taux d'incidence très élevés un peu partout. La semaine dernière, en France, un nombre de cas positifs qui flirte avec les 30 000 personnes par jour, 6 000 écoles qui ont dû fermer sur le territoire, des décès, oui, par dizaines dans les hôpitaux. Les chiffres remontent et voilà qu'arrive la menace du variant Omicron, détecté en Afrique du Sud et dont on craint qu'il soit plus virulent, plus transmissible encore que le variant Delta. Les pays européens ont pris ce week-end des mesures drastiques, en interrompant toutes les liaisons aériennes avec l'Afrique australe. La semaine dernière, jeudi dernier, Olivier Véran, ministre de la Santé, avait fait en tout cas le point sur la situation. Alors pour l'instant, il n'est pas question de reconfiner la population. Le gouvernement mise avant tout sur le vaccin, la vaccination, en appelant tous les Français déjà vaccinés avec deux doses à effectuer dans les semaines qui viennent une troisième dose, dite dose de rappel. Dès lors que votre deuxième dose date de plus de 5 mois, vous êtes éligible pour que cette troisième dose vous soit administrée. Et cela concerne tous les adultes, dès lors donc que vous êtes âgé de plus de 18 ans. Olivier Véran, qui a précisé que ceux qui n'effectueraient pas ce rappel, cette troisième dose, eh bien perdront très rapidement leur passe sanitaire. À partir de mi-janvier, même avec votre certificat de dose, si votre deuxième dose remonte à plus de 6 mois, eh bien vous ne pourrez plus aller au restaurant, prendre le train, etc., etc., tout ce que permet de faire aujourd'hui le passe sanitaire. Voilà pour la situation pandémie Covid-19 en France. En tout cas, le message, il semble avoir été entendu par les Français. Entre jeudi, jour des annonces d'Olivier Véran, et dimanche soir, 3 millions de rendez-vous ont été pris pour se faire vacciner, sachant qu'il y a encore des récalcitrants. En France, 76% de la population a reçu au moins une dose, et environ 70% a reçu les deux doses.
Merci Émile d'avoir décrypté l'actu pour nous cette semaine en France.
Merci, merci. À bientôt.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Et voilà, on continue maintenant l'émission avec la deuxième partie de cette interview avec Caroline Pommier, qui est la directrice du programme français binational de Caulfield Junior College. Elle est en compagnie de notre collègue Marianne Murat.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Ce programme français binational de Caulfield Junior College est un programme bilingue, binational et multiculturel. Parlez-nous de vos enseignants justement, quelle est leur spécificité et quelle est leur façon d'enseigner ?
Alors nos professeurs français qui travaillent donc à Caulfield Junior College dans le programme binational, ils sont tout d'abord uniques. C'est des professeurs français titulaires de l'éducation nationale pour la plupart d'entre eux. Et nous avons également des professeurs français qui ont été diplômés soit en Australie ou dans d'autres pays, notamment l'Angleterre, par exemple. Nos professeurs, ce sont des passionnés parce qu'ils ont eu besoin de s'investir énormément dans ce programme unique. L'AEFE a un nombre d'écoles françaises à l'étranger qui sont la plupart du temps sur un modèle privé et donc qui ont des parcours linguistiques très riches, mais qui n'ont pas souvent ce parcours bilingue et binational. La spécificité de notre école, c'est que c'est un programme hébergé dans une école publique australienne, ce qui fait que les professeurs sont en collaboration constante avec une équipe australienne. Et comme c'est un programme binational et que ce n'est pas toute l'école, il doit s'adapter aux contraintes de l'école publique, mais vous imaginez que cela développe une richesse incontestable également, puisque ce sont des professeurs qui maintenant sont experts dans deux systèmes d'éducation. C'est très rare de connaître aussi bien et aussi profondément le système français et le système australien. Donc, nos professeurs sont des professeurs extrêmement flexibles, qui font beaucoup de compromis, mais qui ont toujours la passion et la mission de développer la culture française et la langue française.
Est-ce que ça arrive que vos professeurs qui parlent français switchent en langue anglaise ou c'est vraiment à chaque professeur sa langue ?
Alors, c'est une très bonne question. Nos professeurs switch très rarement. S'ils le font, parce qu'ils savent qu'ils sont les protecteurs de la langue et encore une fois, nos auditeurs, les parents d'enfants bilingues s'en reconnaissent ici et savent comment il est difficile parfois de ne pas switcher. Nos professeurs ne switchent pas parce qu'ils sont responsables. Cependant, quand des enfants arrivent dans notre établissement, par exemple en grande section, et que leur français n'est pas encore au niveau bilingue, ils ont besoin d'être rassurés en langue anglaise ou bien ils ont besoin d'entendre une consigne de nouveau en anglais.
Et les professeurs français parlent couramment anglais dans votre école, donc ont cette capacité de donner les consignes dans les deux langues.
Nos professeurs français sont naturellement bilingues, mais ont également l'obligation d'être bilingues. Parce que pour enseigner à l'école franco-australienne de Melbourne, il faut pouvoir avoir la reconnaissance du Victorian Institute of Teaching, qui... on a de la chance, délivre des permission to teach, donc reconnaît les diplômes de nos professeurs français, titulaires de l'éducation nationale, à condition qu'ils aient un niveau minimum en anglais, ce qui est complètement compréhensible parce que toutes nos réunions sont en anglais et que la direction de l'école est australienne. Donc, ils ont un minimum de niveau C1 dans le cadre européen des langues à obtenir. Donc, on leur demande de toute manière d'obtenir un diplôme, donc un certificat international d'anglais pour pouvoir enseigner dans notre école.
Et donc, Caroline, on vous entend bien, vous dites que vos enseignants sont uniques. Comment faites-vous pour recruter la perle rare ?
Alors, c'est une très bonne question, surtout en cette période de fermeture de frontières. Pour recruter, habituellement, on publie nos offres sur les sites comme enseigneralétranger.com et on recrute ces perles rares de la France parce que, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment important d'avoir des professeurs formés et titulaires de l'éducation nationale. C'est important pour le respect de la culture et de la langue française, mais c'est important pour notre homologation et le respect des critères de l'homologation de l'AEFE. Avec la fermeture des frontières, on a eu de la chance de trouver des professeurs français natifs ou non diplômés d'un autre pays et ces professeurs s'adaptent parfaitement bien. Mais pour recruter nos professeurs français, on s'assure de les accompagner au cours de leur expatriation, parce que c'est pas anodin de déménager à l'autre bout du monde. La plupart du temps, nos professeurs ont fait un stage. On est d'ailleurs très ouvert à recevoir des stagiaires. On a des partenariats avec les universités. Et dans cet accompagnement, on leur offre aussi, bien sûr, des conditions attractives pour s'installer à Melbourne. On se sert du partenariat de l'association de l'EFM, des parents d'élèves qui nous aident dans cette démarche. Et justement, puisque vous en parlez, on organise le 8 décembre ainsi que le 9 décembre un forum d'information sur les carrières d'enseignants de l'école franco-australienne de Melbourne. Pourquoi on organise ce forum ? Parce que quand on est un enseignant français de l'éducation nationale, on a pour la plupart du temps pas passé d'entretien d'embauche. Donc le but de ce forum, c'est pour préparer les candidats qui sont motivés pour venir travailler en Australie, et croyez-moi, c'est très attractif, mais on les accompagne dans la démarche de ce recrutement parce qu'ils n'y sont pas familiers et ils ont besoin d'être accompagnés.
On vous a entendu, hein, Caroline, rendez-vous est pris pour le 8 et 9 décembre, mais ici en Australie, les programmes sont basés sur l'hémisphère sud, donc des années scolaires allant de février à décembre. Cherchez-vous à recruter pour la rentrée de février ?
Alors non, on recrute certains professeurs au mois de février, souvent les professeurs qui sont locaux et qui résident déjà en Australie. Pour ce type de poste, pour être attractif auprès des professeurs français titulaires de l'éducation nationale, nous avons des postes qui s'ouvrent au mois de juillet et septembre, donc dans cette situation précise pour septembre 2022.
Donc basé sur l'hémisphère nord, donc ça pourrait correspondre à des professeurs de français qui ne sont pas encore en Australie.
Tout à fait, à qui on laissera plusieurs mois le temps d'établir les visas et tous les documents nécessaires pour venir travailler dans cette fantastique ville de Melbourne.
Et une question qui pourrait intéresser beaucoup de parents, avez-vous encore de la place pour la rentrée ?
C'est une très bonne question. Alors, je ne sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais je suis une grande enthousiaste. Et même si les parents font quelques demandes et s'aperçoivent qu'il y a des listes d'attente et qu'il n'y a pas forcément de place, nous avons souvent des places dans les niveaux les plus hauts. Pour les parents qui souhaitent inscrire d'ailleurs leurs enfants en grande section en 2023, ils peuvent prendre contact avec l'école dès la rentrée 2022. Ils feront une visite de l'école en ma compagnie ou celle du principal. C'est le meilleur moyen pour obtenir une place pour la rentrée donc 2023. Pour les autres niveaux, on trouve des solutions et on accueille toujours avec beaucoup de plaisir les expatriés. On les accompagne aussi dans l'inscription de leurs enfants dans notre établissement.
Et vous justement, donc, qui êtes dans ce milieu, qui êtes dans ce monde au quotidien, vous voyez ces enfants qui arrivent à l'école à 3 ans, vous les suivez jusqu'à leur 10, 11 ans. Ça peut être confusant, surtout pour nous les adultes, de parler avec les deux langues, de switcher. En plus on vieillit, si je puis dire, plus on a du mal à apprendre de nouvelles langues. Racontez-nous justement ces enfants, j'imagine que ils doivent vous impressionner tous les jours.
Ils sont impressionnants, ça c'est indéniable. Et ils sont passionnants parce que, comme vous dites, ils sont jeunes, donc en fait leurs chemins sont encore frais et donc toutes les habitudes qu'ils prennent à un jeune âge sont très importantes. Elles sont soit à ancrer, soit à modifier. Donc, quand je parle de ça, pour donner quelques exemples, nos enfants, quand ils arrivent, vont mélanger les deux langues complètement naturellement. Et je rassure constamment les parents, puisque c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils font en fait les transferts de concepts d'une langue à l'autre constamment. Donc toute la beauté de l'école, c'est de développer des stratégies identiques dans les deux langues pour que les enfants ne soient jamais perdus et qu'ils reconnaissent les similarités d'une langue à l'autre, d'un concept à l'autre. C'est tout ce travail que les enseignants font. Les élèves, eux, arrivent à un niveau de bilinguisme donc en sixième, puisque l'école australienne va jusqu'à la classe de sixième, qui est assez impressionnant dans le sens où ils vont être aussi bien capables de s'exprimer en anglais ou en français. En attestent les évaluations qui passent en sixième, notamment le DELF. Donc nos élèves passent ce diplôme délivré par l'Alliance française, qui est un diplôme international de langue française. Ils le passent avec succès, donc le DELF juniors et ils vont être naturellement dominants en anglais. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir que ces élèves qui ont suivi un enseignement bilingue sont naturellement au-dessus des apprentissages, de manière générale, au-dessus des apprentissages d'un élève moyen du Victoria. Et on s'aperçoit chaque jour que le bilinguisme développe de très beaux esprits.
Merci beaucoup Caroline. Il reste donc quelques semaines avant la fin de l'année scolaire et les vacances d'été ici en Australie. On rappelle ces dates, hein, le 8 et le 9 décembre, un forum de recrutement pour les professeurs de français. Caroline, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.
Merci beaucoup Marianne, c'était un plaisir.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Et enfin, l'émission un rappel des grands titres de ce 30 novembre. Les frontières internationales de l'Australie restent telles quelles jusqu'à la mi-décembre à cause du variant Omicron. La disparition d'un acteur autochtone emblématique dont on se souviendra comme un pionnier et une force du cinéma australien. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Merci d'avoir été avec nous. Belle journée, à très bientôt. Et je vous laisse en compagnie des têtes raides qui nous interprètent face à face.
À nous les vies artificielles, qu'est-ce qu'on fratille? En attendant que revienne l'instant, les bambous et l'on tombe des gens. Dans les brouillards et dans les nuits, les ciels qui nous chantaient, le refrain de nos sans-vies, les ombres d'oubli, résonnent par ici.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.